BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
Allez, 19h, c'est la deuxième heure de Good Evening Business. Toujours en direct, bien sûr, jusqu'à 20h. Rebonsoir, Audrey.
Rebonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
Alors, dans l'actualité ce soir, on ne va pas dire qu'on n'était pas prévenus. C'est arrivé. Le Sénat a rejeté largement le fameux CETA, traité de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pauline Tadevin va nous expliquer ça dans un instant. Et puis, on en parle avec nos experts qui reviennent, bien sûr, dans un quart d'heure, Audrey.
Et oui, on parlera aussi avec eux déficit public, puisque ça y est, les chiffres de tomber, ça dérape plus vite que prévu. C'est Thomas Cazenave qui nous disait ce matin que nous avons terminé l'année 2023 au-dessus des 5% du PIB. Ça fait mal, évidemment. Et puis, on parlera aussi, bien sûr, du nucléaire français avec ce déplacement d'Emmanuel Macron à Bruxelles dans le cadre du premier sommet pour le nucléaire.
Vous allez faire la promo du nucléaire français. Ouais. On aura 4 experts dans un quart d'heure pour parler de tout ça. Samuel Botton va revenir. L'économiste Pascal Delima va revenir.
Bruno
on sera aussi avec Bruno Grandjean, chef d'entreprise, et Guillaume Duval, ex-directeur de la rédaction d'Alternatives économiques. Ça promet des débats, comme toujours, comme on dit.
Animé,
c'est ça. Voilà le programme, à tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Donc, on s'y attendait. Bonsoir Pauline. Le Sénat a voté tout à l'heure contre le fameux CETA. Non, très net, 221 voix contre, 44 pour. Qu'est-ce qui se passe exactement maintenant, Pauline ?
Rejeté par le Sénat, devrait retourner sur les bancs de l'Assemblée nationale d'ici quelques semaines. Les communistes ont d'ailleurs annoncé qu'ils voulaient inscrire le texte au programme le 30 mai prochain. En 2019, on se rappelle, les députés avaient voté juste pour son application. Depuis, les équilibres politiques ont changé, y compris à l'Assemblée nationale. Il y a le risque que cette fois, ce texte ne passe pas non plus à l'Assemblée, ce qui sera un coup de tonnerre politique pour le gouvernement à quelques jours des élections européennes. Alors derrière, l'exécutif a deux options. Soit il décide de notifier ce rejet de son Parlement à la Commission européenne, ce qui remettrait en cause l'application du traité à l'échelle de toute l'Europe. Soit le gouvernement français décide de faire comme Chypre, qui n'a pas notifié le rejet de son Parlement quand le texte a été rejeté en 2020. Depuis, l'accord continue de s'appliquer, partiellement par défaut, donc depuis plusieurs années. Mais là, le gouvernement prendrait le risque que l'opposition crie au déni de démocratie. Interrogé à ce sujet à la sortie du vote, le ministre délégué en charge du commerce extérieur, Franck Riester, n'a pas dit si le gouvernement comptait notifier ou pas à la Commission européenne le rejet de son Parlement. Il a expliqué qu'il comptait faire un gros travail de pédagogie d'ici le retour du texte à l'Assemblée pour qu'il soit finalement adopté.
Merci beaucoup Pauline. Pauline Tadevin, on en parle bien sûr de ce vote contre le CETA tout à l'heure avec nos experts. Emmanuel Macron, lui, est à Bruxelles aujourd'hui pour un sommet au cours duquel on va notamment parler de l'Ukraine, mais aussi de la façon dont l'Europe doit renforcer ses moyens de défense. Emmanuel Macron devrait encore plaider, vous savez, pour le lancement d'un grand emprunt européen, un petit peu sur le modèle de ce qui s'était fait pendant le Covid. Vous savez que c'est une solution qui ne plaît pas du tout aux Allemands, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, puisqu'on parle défense et armée, on voulait vous dire un mot de l'armée française. Vous savez déjà qu'elle a beaucoup de mal à recruter de nouveaux effectifs, mais ce qu'on voit, c'est qu'elle a de plus en plus de mal à retenir ses effectifs actuels. À tel point que le ministère vient de lancer un nouveau plan d'action pour retenir ses talents. Reportage sur place de Léa Arrojo pour BFM Business.
L'an dernier, l'armée manquait de 3000 personnels civils et militaires. Un grand nombre a décidé de quitter l'institution pour gagner plus ou avoir une vie personnelle moins sujette aux contraintes. Pour Thibaut de Vensailles, directeur des ressources humaines du ministère des Armées, ce plan d'action est primordial pour réduire les départs.
Et un programme qui s'adresse d'abord aux questions de fidélisation. En réduisant les départs, on aura une meilleure sélectivité au recrutement. C'est un ensemble de mesures qui doivent permettre de garder plus longtemps les militaires au sein de nos armées.
Pour mieux accompagner les 15 000 militaires qui changent chaque année d'affectation, l'armée agit sur plusieurs points, la mise en place d'une aide au logement ou encore des dispositifs pour faciliter l'accès aux soins et trouver un médecin traitant par exemple.
Alors l'objectif il est assez simple, c'est d'ici 2030 de gagner un an d'ancienneté moyenne de service des militaires qui quittent les armées.
Le sujet de la rémunération est aussi un point important. Dès cette année, l'armée envisage de combler les différences salariales entre les administrations en débloquant pour cela plusieurs millions d'euros.
Voilà, reportage de Léa Rojo au ministère des Armées pour BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, LVMH annonce ce soir le départ de l'actuel numéro 2 du groupe, directeur général délégué du groupe, Tony Belloni. Il sera remplacé dans ses fonctions par Stéphane Bianchi, qui est l'actuel patron de la division Montre. Et Joe Reid, du leader mondial du luxe. Et puis, coup de tonnerre aux États-Unis. Figurez-vous que l'administration américaine a décidé tout simplement de traîner Apple en justice. Bonsoir Antoine Hollard, vous êtes à Washington. Qu'est-ce qui est reproché à Apple exactement, Antoine ?
Alors c'est l'iPhone qui est au cœur de cette plainte. Le ministre de la Justice dit que Apple a mis en place avec son téléphone star un système destiné à tuer toute forme de concurrence. Et il donne des exemples très concrets. D'abord avec les SMS. Lorsque vous envoyez une photo depuis un iPhone vers un téléphone concurrent, ça marche mal, les photos sont compressées, elles sont de mauvaise qualité, alors qu'il n'y a aucune dégradation lorsque le message est échangé entre deux iPhones. Même chose avec les Apple Watch, les montres connectées. Elles fonctionnent parfaitement avec les iPhones, mais très mal avec les téléphones Android, et tout cela, c'est volontaire selon la plainte. Ces restrictions n'auraient qu'un seul objectif, forcer les consommateurs à acheter des appareils Apple plutôt que des smartphones de marques concurrentes. Toujours selon la plainte, il y a le même genre de manœuvre sur les applications. Exemple avec le wallet, le porte-monnaie numérique d'Apple, qui est le seul à avoir accès au NFC et donc le seul qui peut faire du paiement sans contact. Conclusion du ministre de la Justice, Apple a bâti sa domination uniquement grâce à un monopole. Aux États-Unis, l'iPhone, c'est 65% de part de marché. Le groupe qui a réagi et qui dénonce un dangereux précédent qui menace son identité.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Hollard à Washington pour BFM Business. Vous avez entendu Eric Lombard, le patron de la Caisse des dépôts et consignations, qui était l'invité d'Edith Chevrillon tout à l'heure, qui a été interrogé sur le dossier Atos et qui le dit. BPI France, qui est une filiale de la CDC, pourrait, le cas échéant, regardez telle ou telle partie du dossier Atos. Il ne l'a pas dit explicitement, mais tout le monde pense bien sûr au big data et la cybersécurité. Écoutez Eric Lombard.
BPI France, le cas échéant, pourrait regarder telle ou telle partie, mais en aucun cas participer à l'ensemble. C'est une très grande entreprise sur laquelle d'ailleurs il y a des intérêts qui se sont manifestés. Donc on va laisser déjà le dossier se dérouler.
Ouais, ça y est,
une solution d'ensemble.
On sait où est-ce qu'il en est là. Ouais.
Oui, alors peut-être qu'une solution d'ensemble sera trouvée. Dans ces cas-là, ça sera sans nous. En revanche, si sur telle ou telle activité une solution devait être trouvée, je rappelle que BPI France, dans ces sujets, intervient toujours comme minoritaire et aux côtés d'opérateurs.
Ouais.
Donc ça ne peut pas être le cœur d'une solution, ce ne serait pas conforme à son mandat.
Voilà, Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En France, ce sont nos collègues d'RMC Sport qui l'avaient révélé il y a quelques semaines. C'est officiel, c'est bien McDonald's qui va succéder à Uber Eats pour le naming de la Ligue 1 de foot. Le deal a été officialisé tout à l'heure. D'après nos confrères de RMC, il devrait rapporter ce deal 30 millions d'euros par an à la Ligue nationale de football. Et puis, vous voulez vous faire écouter ce qu'a dit aujourd'hui Xavier Niel, qui était auditionné à l'Assemblée au sujet, vous savez, de la future réattribution de plusieurs fréquences de la TNT. Et à la question « Allez-vous de nouveau postuler ?», il n'a pas dit non, mais vous allez voir que ça ne respire pas non plus le fol enthousiasme. Écoutez.
Pour pouvoir exister, il faut avoir probablement une des 6 premières chaînes ou un nombre de chaînes de TNT significatif pour avoir une masse critique. Donc, on a bossé sur des choses, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout sûr de déposer un dossier dans le cadre de cet appel à l'offre. On comprend que l'ARCOM nous dise « Venez, ça crée une pseudo-compétition ». Mais au bout, les conditions qui sont les mêmes que pour le dernier appel d'offres font qu'on est dans le renouvellement automatique. On peut se revoir dans un an, vous verrez, toutes les chaînes auront été renouvelées telles quelles. C'est mon pari. Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous allez perdre du temps, perdre de l'argent pour au bout vous prendre une baffe ? On peut aimer perdre plusieurs fois, c'est pas un sujet. Mais quand même.
Voilà, Xavier Niel qui n'a pas envie de prendre de baffe. Il l'a dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. 19h10. On retourne, nous, sur les marchés. Pendant ce temps, je vous rappelle la clôture ce soir à la Bourse de Paris. Petite hausse, plus 0,22% pour le CAC 40. 8179 points à la clôture. Bonsoir Étienne.
Bonsoir Guillaume.
Comment ça se passe à Wall Street en ce moment? Il se passe des choses là.
Ah oui, il se passe des choses, oui. Déjà, vous avez trois indices américains qui sont sur des records. Un S&P 500 qui est au-delà des 5200 points. Vous avez un indice Nasdaq qui gagne que 0,3%. C'est bien moins que le S&P qui gagne 0,5% à cause notamment d'Apple. Tournelard en parlait à l'instant. Le titre perd 3% avec donc Apple qui est dans le viseur de l'antitrust américain. 1. Et puis à noter également Accenture qui perd quasiment 8% dans le conseil informatique, avec des entreprises qui, pour préserver leurs marges, décalent certains dossiers, certains projets. Et donc par rapport à cela, Accenture est très prudent pour cette année. Beaucoup moins de conseils informatiques dans toutes les zones mondiales. Ça pesait d'ailleurs sur Capgemini qui a perdu quasiment 3% ce soir à la clôture. Et puis enfin de Micron Technologies qui gagne 15% aujourd'hui, avec le groupe qui parle d'intelligence artificielle. C'est le spécialiste des mémoires, des puces. Et donc vous avez une demande qui est toujours très présente. Et donc un groupe qui est confiant pour cette année. Ça profite notamment à Nvidia qui se rapproche une nouvelle fois de ses records historiques. Et puis enfin un nouveau aujourd'hui à la bourse de Wall Street, c'est Reddit. Hein, vous savez, le réseau social qui compte quasiment 300 millions d'utilisateurs, assez peu connu en Europe. C'est un forum. Et donc une valeur qui gagne quasiment 50%. Là, on est à 47% de variation pour Reddit. Ça pèse à quasi 7 milliards de valorisation boursière pour un groupe qui, pour l'instant, ne gagne pas d'argent, comme beaucoup des réseaux sociaux. En tout cas, c'est assez marquant parce que c'est la première introduction en bourse dans les réseaux sociaux depuis Pinterest.
C'était en 2019.
En effet.
D'accord, effectivement. Donc, sa valeur de test et ça se passe plutôt bien, finalement. Plutôt réconfortant pour la tech américaine. Merci beaucoup, Étienne. Étienne Brac avec nous sur BFM Business, 19h12. On vient avec Audrey Tcherkov et nos experts. Dans un instant, on décrypte l'actu éco jusqu'à 20h en direct, bien sûr. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h15 sur BFM Business, on vous parle avec les experts de ce vote qui a fait trembler le Sénat aujourd'hui. Nous sommes avec Samuel Botton, expert en communication. Rebonsoir. Pascal Delimareux, bonsoir, chef économiste chez CGI Business Consulting. Guillaume Duval, merci d'avoir rejoint ce débat, ancien rédacteur en chef d'Alternatives économiques. Et Bruno Grandjean, président du directoire de Redex, ancien président de la Fédération des industries mécaniques. Voilà, gros sujet, donc grosse équipe. Le Sénat qui se penche sur le fameux CETA donc c'est ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, a été rejeté avec cette alliance assez inédite, il faut le dire, entre la droite républicaine et les communistes, Guillaume.
On parle quand même d'un texte qui était passé à l'Assemblée en 2019. Aucun gouvernement n'avait tenté de le soumettre au Sénat. On comprend mieux pourquoi. Écoutez ce soir, alors la satisfaction d'un économiste, il s'appelle Maxime Combe, il viendra nous voir d'ailleurs lundi prochain, du collectif Stop CETA, après ce nombre franc et massif du Sénat. Écoutez.
C'est la légitimation de tout ce qu'on a pu exprimer depuis des années pour expliquer que le CETA et les autres accords de libre-échange sont des accords qui sont néfastes pour bien des secteurs agricoles, des secteurs industriels, des secteurs des services. En fait, toutes celles et ceux qui ne peuvent pas s'insérer dans cette mondialisation parce qu'ils ne sont pas suffisamment compétitifs. Et on a besoin de ces activités sur les territoires, on a besoin de ces emplois, de ces entreprises qui ne soient pas ratiboisées par cette mondialisation.
Alors, c'est un accord qui fonctionne d'un point de vue commercial depuis 2017. Bruno Grandjean, on vous voyait lever les yeux au ciel en écoutant Maxime Combe.
Oui, moi, je suis assez épouvanté parce que moi, je dirige une entreprise qui vide l'exportation.
Eh ben oui.
Et je crois que c'est le cas de nombreuses entreprises parce que même si la France a un déficit commercial important, elle a tout de même eu des filières d'exportation notables et qui ont des grands résultats, des bons résultats. On exporte de mémoire de l'ordre de 400 milliards d'euros par an. Oui. La France est un pays exportateur, c'est malheureusement un pays très importateur aussi. Mais donc il faut absolument faire un travail de pédagogie et je suis épouvanté par ce qui se passe avec notamment uniquement, je crois, 40 sénateurs qui ont voté contre, qui ont voté pour le CETA finalement.
Oui.
Et un énorme travail de pédagogie. En plus, c'est un pays ami de la France. C'est un pays francophone, donc je crois qu'on se tire une balle dans le pied et je suis très inquiet parce que c'est une tendance de fond et finalement, parce qu'une partie de notre économie ne fonctionne pas, on va détruire celle qui fonctionne, les Airbus, les Dassault, les Redex modestement, qui vivent de l'exportation et qui ont une place dans la mondialisation, qui savent y être compétitifs et donc il faut être très vigilant, c'est une tendance de fond qui pourrait être mortifère pour le pays.
C'est effectivement une opportunité pour les entreprises comme la vôtre, pour beaucoup d'entreprises exportatrices à l'étranger, mais pour des petites entreprises qui n'ont pas de base exportatrice qui résonne à l'échelle d'un département. La vision des choses n'est pas la même pour le coup, Bruno, quand même.
Oui, mais je ne pense pas qu'elle soit submergée de produits canadiens qui viennent c'est 1%, je crois, de nos importations. Donc c'est relativement marginal. C'est un pays au même niveau de vie. Donc on ne peut pas dire que c'est un pays à bas coût qui vient nous inonder de ses produits. C'est un pays qui respecte les normes environnementales, qui est tout à fait exemplaire. Donc c'est une erreur.
Disons que c'est vrai, on a un excédent commercial agricole de la France qui montre que ça marche, ces traités de libre-échange, puisqu'on a plus 10 milliards, Guillaume Duval.
Oui, enfin, au global, on n'a pas un excédent commercial formidable, il me semble.
Non, mais je vous parlais de l'excédent commercial agricole.
Oui, oui. Il est en forte baisse.
Enfin, il est encore largement positif aujourd'hui.
Alors, je pense que le Canada est pas le cas le plus problématique dans ce domaine-là. Je pense que l'accord sur le libre-échange avec le Canada paye les pots cassés, je dirais, d'une tendance lourde qui est la remise en cause de ce qui a été la mondialisation heureuse et toutes les bêtises qui ont été faites pendant 40 ans au nom de ce concept. Par ailleurs, il y a quand même, malgré tout, des problèmes réels avec le Canada. Quand on disait tout à l'heure qu'il respecte toutes les normes environnementales, je suis pas un grand spécialiste, mais il me semble que sur l'élevage, sur un certain nombre de dimensions, il y a quand même des différences sensibles et qui peuvent être problématiques du point de vue de la santé des Français. Et par ailleurs, il y avait dans cet accord un point qui, à mes yeux, pose d'énormes problèmes dans tout ce type d'accord, mais qui était présent aussi dans celui-là, c'est la question dite des tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire donner aux multinationales le pouvoir de dénoncer, combattre des décisions souveraines qui seraient prises en France ou en Europe sur tel ou tel point, en exigeant des montants très importants de dommages et intérêts, etc. C'est une menace pour tous les pays européens, et je pense qu'il est très important, si on continue à faire des accords de ce type dans le futur, d'écarter systématiquement, en particulier ce type de disposition parfaitement antidémocratique.
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une attitude un peu schizophrénique du gouvernement sur ces traités de libre-échange ? Est-ce que ça peut être tout ou rien, finalement, ces sujets ? Bruno Fachin.
Non, mais qu'il fallait
hystérique
bonifier,
il y a un an sur le traité Mercosur, vous voyez où on est aujourd'hui, le gouvernement qui a volé au secours de ce traité CETA. Finalement.
Comme le disait Guillaume Duval, on paye sans doute les pots cassés sur des mauvais accords ou sur des négociations qui ont été mal faites, et notamment avec la Chine, l'entrée de la Chine dans l'OMC, ça n'a pas été une grande réussite. Et il ne faut pas avoir d'esprit de système sur ce sujet. Mais le Canada, quand même, c'est le Canada. C'est pas les États-Unis, c'est pas la Chine, c'est pas une volonté de prédation sur l'économie française. C'est un partenaire naturel de la France.
Enfin, surtout que ce partenariat avec le Canada nous a permis aussi de remplacer certaines importations qui venaient de Russie,
absolument,
Pascal.
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Bien sûr que ça a permis, ça a été une alternative effectivement aux importations qui venaient de Russie et au commerce qui se réalisait avec la Russie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on cherche aussi des leviers de croissance et que ces leviers de croissance ne reposent plus tellement sur la consommation, ne reposent plus uniquement sur l'investissement, mais plutôt, sauf pour les investissements, en tout cas sur la transition numérique et écologique, je mets ces investissements de côté, mais globalement, il faut trouver un levier qui est le commerce international. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je tiens à préciser quand même par rapport aux relations commerciales entre le Canada et l'Union européenne, que le volet 1, en fait, de cet accord fonctionne. Il y a quand même... Oui. Le vrai problème, c'est ce que vous disiez, c'est celui du tribunal international et de la jurisprudence, je dirais, entre les litiges qui peuvent s'opérer et les litiges bilatéraux, mais aujourd'hui, le volet 1 fonctionne. On a une stimulation des échanges de 51% quand même en 2023. On a un excédent de la France qui a cru de 25% sur les biens en 2023 aussi. Donc ça a été un facteur positif de croissance. Et puis effectivement, bon, ça n'est que 1% du commerce français. Et puis il n'y a pas eu le raz-de-marée agricole qu'on a effectivement, dont on a craint, dont certains ont craint plutôt.
Ouais, ça n'est qu'1%, mais dans la séquence actuelle où on parle beaucoup d'agriculture, évidemment, ça prend une résonance toute particulière. C'est quand même ce dossier, cette séquence-là. Moi, ce que le communicant Samuel Botton regarde tout ça aujourd'hui.
Alors, ça dépend des points de vue sur lesquels on se place. Si je me place du point de vue de Bruno, évidemment, je comprends votre déception. Après, je serais beaucoup moins alarmiste sur cette question dans la mesure où, à mon sens, à la lecture des événements, on est dans une guerre de communication. Et pour le coup, donc c'est ce que je disais précédemment avec Pascal, on est sur un coup de com', potentiellement un coup de maître, dans la mesure où ce qui allait se passer au Sénat était éminemment prévisible. Le gouvernement, déjà l'Assemblée nationale, a une majorité relative. Au Sénat, ils sont minoritaires. Donc, sur cet aboutissement 211 contre 44, il n'y a pas beaucoup de surprises. La question qui doit se poser, c'est pourquoi. Et donc là, on est sur les leviers et les moyens de pression des oppositions vis-à-vis du gouvernement, avec une échéance électorale à très court terme. Et après, d'autres enjeux qui vont nous concerner à partir de la rentrée, d'autres problématiques qu'on va aborder sur le débat à venir. Mais en l'occurrence, les sénateurs communistes ont joué leur partition. Les républicains ont vu une faille où ils pouvaient s'engouffrer. Donc là, on est sur une alliance transpartisane qui a permis ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais dans le fond de la problématique, Au sortir de cette journée, il n'y a absolument rien qui est remis en cause. Il y a un deuxième round qui nous attend le 30 mai. Et même avec ce deuxième round du 30 mai, il n'y aura rien de définitif. C'est-à-dire la France et le gouvernement est dans une stratégie de temporisation parce qu'à partir du moment où ce n'est pas notifié à l'Union européenne, il n'y a pas d'évolution probante. En attendre, donc bon, on est
oui, en sens oui, mais justement, Samuel, deux options, parce que en effet, soit la France fait comme Chypre et ne notifie rien à l'Union européenne, puisque Chypre ne l'a pas fait lorsque son Parlement a rejeté le traité en 2020, et donc on a un accord qui continue de s'appliquer par défaut. Mais si la France notifie, ça remet en cause l'application provisoire du traité au niveau entier européen.
Et alors là, c'est là où il y a un problème, mais je pense qu'il se posera peut-être à une échéance moyen-long terme. Et là, pour le coup, ce qui m'inquiète, donc vous évoquiez les relations entre la France et le Canada. On sait qu'en 2027, ce ne sera plus le même président, ça sera un nouveau président ou une nouvelle présidente. Et là, pour le coup, ce qui m'inquiète, c'est qu'on risquerait d'avoir des relations diplomatiques beaucoup plus froides entre le Canada et entre la France. Et là, pour le coup, ça pourrait amener... à une forme de crise.
Ah ben on en parlait tout à l'heure, on a besoin de leur terrain. On Absolument. Importe du lithium, on importe Absolument. Aussi du pétrole, du cuivre.
Bruno Grandjean, vous dites quoi? C'est une défaite pour l'agriculture française, c'est une défaite pour l'économie française au sens
c'est
large.
C'est terrible que des manœuvres politiques, finalement, mettent en danger un accord qui, sur le fond, est utile au pays. C'est aussi de la géopolitique, ces accords commerciaux, et le Canada est un allié naturel.
Et je précise qu'il y a le principe des avantages comparatifs dans l'accord, donc il n'y a pas de concurrence sur tous les domaines. Enfin, c'est juste...
Guillaume Duval, là-dessus.
Oui, simplement, bon, ce qu'il faut savoir aussi en termes de géopolitique, c'est que il n'est pas sûr du tout que le gouvernement canadien risque de tomber et on risque de se trouver avec un Trump canadien comme interlocuteur d'ici quelques mois, donc ce qui ne simplifiera pas les choses non plus.
Voilà pour ce dossier du CETA. Donc rendez-vous le 30 mai pour un vote à l'Assemblée nationale qui ne ressemblera probablement pas à ce qu'il était il y a 5 ans en 2019. La veille, le 29 mai, Standard & Poor's se sera prononcé sur la note souveraine de la France. Voyez un petit peu la séquence et tout ça 10 jours des élections européennes. Bien. D'ici là, il va se passer beaucoup d'autres choses, notamment sur les déficits, bien sûr, parce qu'on voulait aussi en dire un mot ce soir, les comptes publics, avec cette grande question. Y a-t-il le feu? Thomas Cazenave, ce matin, qui nous dit que sur l'année 2023... on a des déficits publics qui sont finalement à un niveau bien supérieur à ce qui était prévu. Ils pèseront plus que les 4,9% prévus à l'origine.
Alors ça, c'est clair. On sera au-dessus des 5%. Dans la presse, ce matin, on disait même que ça pourrait avoisiner autour des 5,6%, ce qui n'est donc plus la même histoire. Le chiffre définitif, en tout cas, de l'INSEE nous sera donné mardi prochain. Thomas Cazenave, lui, ne veut pas aller plus loin. On l'écoute tout de suite.
C'est l'INSEE qui publie le chiffre du déficit public de 2023. Elle aura l'occasion de le faire la semaine prochaine.
Et ce qui est certain, plus important que prévu.
On l'a dit devant la représentation nationale avec Bruno Le Maire, devant l'Assemblée, au Sénat également. Pourquoi? On a constaté, notamment en fin d'année, le ralentissement économique. Qui dit ralentissement économique, moins de croissance, dit moins de rentrées fiscales, moins d'impôts sur les sociétés, moins de TVA, moins de cotisations sociales. Donc on le sait, le déficit sera plus élevé que prévu en raison de ce nouveau contexte international.
Oui, donc on a quand même un ministère français de l'économie et des finances qui anticipe un déficit donc de 5,6% du PIB. Si rien n'est fait, a déclaré Jean-François Husson, le rapporteur général de la commission des finances, on sera vers les 5,7, voire plus. C'est quand même plutôt inquiétant, non?
Guillaume, oui. Écoutez, pour être honnête, moi j'ai jamais compris comment Emmanuel Macron et son gouvernement avaient pu passer pour des gens sérieux en matière de finances publiques. Je pense que depuis 2017, ils ont une politique qui est en fait celle de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire on baisse les impôts des très riches, on baisse les impôts pour les entreprises et on ne réduit pas les dépenses en parallèle, voire on les augmente pour parfois des bonnes raisons. Et donc on creuse les déficits. Donc on aboutit à une situation où effectivement l'homme malade de l'Europe, en tout cas sur le plan des finances publiques, c'est plus l'Italie, c'est la France. On se dirige vers des niveaux de dette publique qui sont similaires. C'est effectivement une catastrophe. Après, le sujet, c'est que dans une situation conjoncturelle comme celle qu'on est aujourd'hui, la meilleure réaction à ce type de catastrophe, c'est pas forcément de serrer tous les boulons d'un coup. Parce que là, on aggrave les choses. C'est notamment ce qu'ont fait les Allemands suite au jugement de la Cour de Karlsruhe, ce qui est une catastrophe à la fois pour eux, mais aussi pour nous et pour l'Europe. Donc si nous, on s'engage aussi dans cette voie, là, c'est toute l'Europe et toute l'économie européenne qui va aller très mal.
Personne ne dit, personne ne parle de serrer tous les boulons. On cherche les boulons à serrer, pour le coup, aujourd'hui. Non, mais c'est ça, voilà. Est-ce qu'il faut serrer quelques boulons, Bruno Grandjean?
Je pense qu'il faut les serrer, mais le problème, c'est de savoir si le gouvernement est crédible pour les serrer, puisqu'il nous disait l'inverse, puisqu'il n'a pas de majorité. On nous disait l'inverse il y a encore quelques mois. Que tout allait bien, Madame la Marquise, c'était le quoi qu'il en coûte. On a arrêté l'économie française. Donc c'est une navigation à la godille, en fonction de l'actualité, de l'air du temps, d'une notation. C'est-à-dire que la France aujourd'hui est dépendante de quelques personnes qui donnent une note à la France. Enfin, on est tombé bien bas. On est tombé bien bas. Une agence de notation fait la politique de notre pays. Mais enfin, c'est vrai que quand on a 3 000 milliards de dettes et puis 100 milliards de mémoire de déficit commercial récurrent, on est plus souverain. Mais oui, le gouvernement est-il capable de mener une politique d'assainissement des dépenses publiques? J'en doute.
Non, mais c'est vrai que cette urgence du gouvernement actuel à vouloir faire tous les fonds de tiroir qui est assez antinomique, en effet, avec ce qu'ils expliquent depuis plusieurs mois en disant
on
que tout va bien, etc.
Les chaussures, quand même.
Non, mais voilà, on est bien d'accord. Mais est-ce que ça peut s'expliquer par le fait que peut-être une agence de notation ait appelé Bruno Le Maire pour l'informer que la note de la France allait être dégradée, Pascal Delima?
C'est sûr que les agences aujourd'hui de notation ont pignon sur rue parce que c'est un indicateur d'investissement aussi, parce que c'est un indicateur pour les marchés financiers, donc pour la liquidité de l'économie. Donc ça, c'est un premier point de pédagogie.
Elles sont quand même moins prégnantes il y a 10-15 ans quand même.
Peut-être, mais ce qu'il faut dire en termes de chiffres, c'est que effectivement, lorsque vous faites une prévision de croissance de 0,1% en moins, vous avez 0,05% de déficit en plus.
Oui.
Comme les prévisions sont systématiquement révisées, donc systématiquement, vous avez du déficit en plus. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a une dynamique aujourd'hui qui est nouvelle. J'aime bien les 2C et les 2D. Conjoncture internationale, croissance, déficit, dette. Aujourd'hui, le poids de la conjoncture s'est accru. Le poids de la conjoncture dans le déficit est important. La conjoncture, c'est quelque chose de difficile à maîtriser. Il y a une part conjoncturelle, mais dans ce déficit, il y a une autre part aussi qui est structurelle. C'est là où on peut discuter. À peu près la moitié. La moitié de ce déficit structurel, donc le marché du travail, les frictions sur le marché du travail, peut-être des dépenses excessives dans certains domaines, c'est à discuter encore. C'est un vrai sujet aujourd'hui d'économie. Et pour conclure, et ça c'est important, l'histoire économique nous démontre que lorsqu'il n'y a pas de croissance, le mixte 2/3, 1/3, c'est-à-dire 2/3 d'économie de dépenses, 1/3 d'hausse d'impôts, est plus vertueux que faire que des augmentations d'impôts. Donc je résume, il vaut mieux faire des économies de dépenses,
Guillaume ça.
Des économies de dépenses que des hausses d'impôts lorsque la croissance en face.
De toute façon, les hausses d'impôts, pour le moment, c'est une ligne rouge de la part du gouvernement.
Pourquoi vous riez, Guillaume? Qu'est-ce qui vous choque?
Parce que je ne pense pas qu'il y ait quelques fondements scientifiques que ce soit ce qui vient d'être dit là-dessus. Mais simplement, quand on voit effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Donc on a déjà un système de santé qui est à l'os et qui fonctionne très mal. On a un système éducatif qui est dans la cave. On a des problèmes d'inégalité, etc. Le plus simple en France, c'est évidemment d'augmenter les impôts des très riches qui ont beaucoup baissé depuis un certain nombre d'années, avec un excès d'épargne aujourd'hui qui est très important et qui est disponible. Donc effectivement, les gouvernements comme celui d'Emmanuel Macron, comme celui de Nicolas Sarkozy, préfèrent toujours emprunter de l'argent aux riches plutôt que leur faire payer des impôts. Mais si on leur faisait payer des impôts, ça n'aurait pas d'impact macroéconomique sensible.
Allez, Bruno, voilà. Et ça, je vous fais réagir dans un instant à ce sujet. On fait la pause parce qu'il est déjà 19h32 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h35 sur BFM Business, nous sommes avec Samuel Botton, Pascal Delima, Guillaume Duval et Bruno Grandjean. Nous parlions conjoncture et déficit, on n'a pas terminé, alors on continue. Bruno Grandjean, je rappelle que l'objectif c'est de ramener pour 2024 le déficit à 4,4%, donc ça voudrait dire qu'il faudrait le réduire en une année de 1 point, ce que la majorité actuelle n'a jamais fait, en tout cas depuis 2017. Ça semble compliqué,
non ? Oui, je crois qu'on n'est pas crédible. Donc pour moi, il y a deux mesures à prendre. La première, c'est la dissolution de l'ENA. puisque finalement c'est l'ENA qui dirige ce pays depuis des années. Et d'ailleurs, il a été dissous à plusieurs reprises, oui. Mais ça renaît sous un autre nom.
Oui. On a déjà fait déménager.
On déménage à Strasbourg. Bon, donc la dissolution de l'ENA et puis la dissolution du Parlement pour mettre en place une majorité et un gouvernement capable de rétablir les comptes publics.
Ah oui, ça c'est choc.
Ayant une forme de crédibilité. Quand le président Macron va à Bruxelles et demande un grand emprunt pour la défense, oui. Il a totalement raison, mais il est totalement pas crédible. Et donc, il faut rétablir la crédibilité de la France, montrer que la France, c'est un pays qui peut tenir ses promesses et tenir ses comptes.
Sauf que pour faire ça, Bruno, il faudrait se remettre en question. Et il ne me semble pas que ça soit la tendance actuelle au sein du gouvernement.
C'est clair que la pédagogie n'a pas été faite, mais on a expliqué aux Français que les déficits, ça ne comptait pas. Jacques Chirac expliquait à Francis Maire, il y a déjà très longtemps, un ministre de l'économie issu d'une belle filière, la sidérurgie, que je connais bien, et qui disait à Jacques Chirac, on ne va pas tenir avec un déficit comme ça. Et Chirac lui disait, ça fait déjà 10 ans qu'on a ça, on pourra bien faire 10 ans de plus, on a fait 20 ans de plus. Mais maintenant, on est au bout. On est au bout de cette politique hédoniste, cette politique de la cigale face à la fourmi. Et il y a toujours une bonne raison de ne pas faire d'économie, puisque c'est jamais le bon moment. Quand ça va bien, on ne voit pas pourquoi on les ferait. Et quand ça va mal, ce n'est pas le moment, puisqu'il faut relancer la consommation.
Guillaume Duval.
Non, mais je suis d'accord. Ce qui vient d'être dit sur Jacques Chirac, sur Nicolas Sarkozy, sur Balladur, sur ce qui vous voulez. Mais il y a quand même deux gouvernements qui ont...
Beaucoup d'énarques, d'ailleurs.
Il y a deux gouvernements qui ont quand même rétabli de manière assez sensible les comptes publics. C'est le gouvernement de Lionel Jospin entre 1997 et 2002 qui avait beaucoup réduit...
Il y avait de la croissance.
Qui avait beaucoup réduit... Chirac lui avait reproché à l'époque de justement pas baisser les impôts. Oui. Hein. Et le gouvernement de François Hollande qui avait effectivement augmenté les impôts, ce qui avait permis de réduire les déficits et de limiter l'endettement, même si effectivement, sous la pression d'Emmanuel Macron, il s'est mis à faire des bêtises ensuite en abaissant beaucoup les impôts des grandes entreprises. Mais c'est toujours la gauche en fait qui rétablit les comptes publics, c'est toujours la droite qui creuse les déficits et qui fait monter l'endettement.
Alors là, je n'ai jamais compris
pourquoi c'était perçu dans le sens inverse dans l'opinion publique, alors que c'est manifestement comme ça que ça se passe.
Parce qu'il y a certains chiffres qui le disent, Pascal.
Il y a certains chiffres qui le disent et il manque quelque chose, c'est la contrainte. C'est-à-dire que la contrainte, c'est le rapport des taux d'intérêt réel à la croissance. Donc on n'était pas du tout dans la même période. Ça, c'est un premier point. Et le taux d'intérêt réel, c'est donc le taux nominal divisé par l'inflation. Aujourd'hui, l'inflation est très élevée. Ce qui rend d'ailleurs, entre nous, la dette plus solvable et moins inquiétante qu'il n'y paraît. Et donc le levier, c'est soit le taux d'intérêt. Bon, aujourd'hui, ils sont assez élevés. On peut peut-être le diminuer, mais il y a un problème d'inflation. Vous avez l'inflation en bas, effectivement, qui est suffisamment élevée, qui permet comptablement certaines fongibilités de cette dette. Mais en face, il n'y a pas de croissance. Enfin, il y a très peu de croissance. Donc, pour moi, l'un des leviers, c'est la croissance, c'est les métiers de demain, c'est le marché du travail, principalement.
Oui, mais là, on s'attaque bêtement et purement à la réduction de la dépense. On n'est plus dans l'état d'esprit, on a l'impression d'aller chercher la croissance avec les dents. C'était encore le discours il y a quelques mois. Voyez, on a l'impression qu'on a changé de logiciel à ce niveau-là, très clairement.
Moi, je ne crois pas du tout. Je crois que les potentiels de croissance sont importants.
Si tant est qu'on se donne la peine de les chercher, de travailler, de se battre un petit peu, d'y croire, tout un certain nombre de chapitres lié un peu à la psychologie qui aujourd'hui est un petit peu en berne, n'est-ce pas ? Cette volonté, etc., qui est cette abnégation, cette ambition aussi que devraient avoir beaucoup de jeunes, et d'ailleurs il y a des start-up et des licornes en France qui cartonnent, hein. Et c'est la recherche en fait de la création de richesse, la recherche de création de valeur, qui est le volet croissance qui, à mon avis, peut permettre de s'en sortir. Les États-Unis le savent très bien.
Oui, absolument.
J'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'inégalité aux États-Unis que ça, mais néanmoins, en termes de croissance, en termes de création de richesse, ils sont là. La Chine aussi, et je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas de l'Asie, je n'ai pas dit non plus qu'il n'y avait pas de risque de nivellement par le bas sur les salaires, etc. Mais pour la croissance économique, face au taux d'intérêt réel, le levier, c'est les métiers de demain.
Alors justement, Samuel, est-ce que vous pensez que le réveil peut venir du fait que la majorité peut potentiellement être sanctionnée aux européennes à cause de sa mauvaise gestion des finances publiques ? Parce que ça, c'est une réalité et ça va arriver vite.
Qu'elle soit sanctionnée, je pense que c'est d'ores et déjà acté. Et c'est finalement le jeu politique depuis 30, 40 ans du fait que les présents deviennent les sortants sur les élections.
Enfin, on n'a pas été réellement sanctionné jusqu'à présent.
Elle l'a été sur les municipales, elle l'a été
au niveau européen.
Sur les régionales. Alors, au niveau européen, moi, de ce que j'analyse et de toutes les campagnes européennes que j'ai vécues, c'est en général les Verts qui en ressortent systématiquement renforcés. Là, j'imagine qu'on se retrouvera avec uniquement sur les européennes. Là, j'ai tendance à penser qu'effectivement, c'est plutôt aux extrêmes que ça pourrait se passer. Après, dans le cas du président de la République, il est clairement sur un jeu d'équilibre, c'est-à-dire il faut trouver des solutions sans se renier sur tout ce qui a été dit depuis le début de son deuxième mandat. Donc la question principale, c'est celle de la hausse d'impôts. De toute évidence, il ne veut pas en entendre parler pour le moment, parce que on a ce contexte d'élection qui arrive bientôt et il faut essayer de préserver ce qui peut l'être. Et puis après, le risque, c'est une nouvelle crise de confiance, une nouvelle défiance de la population vis-à-vis du gouvernement, encore plus que ce qu'elle est aujourd'hui, et de remettre les Français dans la rue. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que ça pourrait être temporisé. Une autre phrase de Guillaume, pour le coup, avec laquelle je suis totalement d'accord, les agences de notation ne sont plus aussi souveraines que ce qu'elles l'étaient il y a 10-15 ans. Donc, d'une part, c'est ce que je vous disais sur la première partie du débat, j'ai tendance à, ou la faiblesse de penser, si vous préférez, que Bruno Le Maire pourrait apporter les bons gages à ces agences de notation pour essayer de maintenir la note de la France. Et cas échéant, même si
c'est... Il écrit des bouquins, c'est tout ce qu'il sait faire.
Même si c'était pas le cas, je vais vous poser la question, et après.
Non mais attendez, pardon, quid de l'impact économique? Quand on a une note dégradée, on a des intérêts qui augmentent.
Bon, on n'est pas la Grèce quand même. Alors effectivement,
enfin, on n'est pas la Grèce, on est quand même sur le podium avec l'Italie et la Grèce.
On était à 17/20 il y a quelques années, ok, on est à 16... 15,5 peut-être. Bon, voilà, ça reste une note souveraine solvable, encore aujourd'hui. Il faut raison garder, hein, il y a un paquet de pays, on connaissait les différentes hiérarchies. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin de réformes structurelles, qu'il n'y a pas besoin de toujours s'améliorer, effectivement, mais l'une des craintes, à mon avis, c'est sur les anticipations des Français. Puisqu'effectivement, quand on sait qu'une dette est importante, on anticipe une hausse d'impôts, et donc de l'épargne, de précaution, et donc c'est pas non plus un signe de très très bonne santé.
On voit bien tous les indicateurs de l'INSEE sur le climat des affaires, sur la confiance des ménages, commencent à être très ébranlés.
Tout à fait, et ça peut alimenter une hausse des taux. Effectivement, le downgrading de la note peut alimenter aussi une spirale un petit peu de dette, un peu...
Moody's et Fitch donc 26 avril. Et Standard & Poor's donc le 30 mai, on sera déjà aux élections européennes. Voilà. La veille, on aura voté pour ou contre le CETA à l'Assemblée nationale. Vous voyez la belle séquence qui nous attend. Deux mois qui vont être hauts en couleur. Vous parliez nucléaire tout à l'heure. Bah, on voulait dire un mot effectivement de ce qui s'est passé aujourd'hui à Bruxelles, parce que c'était le premier sommet international organisé par l'AIEA sur le nucléaire civil, et la France est allée, par le biais d'Emmanuel Macron et de Roland Lescure, faire la promo du nucléaire français. Voilà. La question qu'on pose, qu'est-ce qu'on a à vendre? Est-ce qu'on a un savoir-faire français à vendre en termes de nucléaire au reste du monde, finalement? Je vois Guillaume Duval qui tique un petit peu. Bruno qui ne dit rien, mais qu'en pense pas moins, non?
Faut demander aux Anglais, ou faut demander aux Finlandais, hein, sur le prix des EPR, sur la durée pour la mise en route. Non, le problème, c'est que le nucléaire, ça coûte très cher. De toute façon, ça peut pas être la solution pour la question du changement climatique, parce que ça prend 15 ans d'implanter une centrale. Donc, on est en train de recommencer simplement la même bêtise que celle qu'on avait fait il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'on va louper de nouveau toute la révolution des énergies renouvelables, parce qu'on va de nouveau mettre tous les moyens financiers disponibles en France, et il y en a peu, vous l'avez dit, et tous les moyens intellectuels disponible en France, et il y en a peu aussi, à nouveau dans le nucléaire, alors que c'est sur d'autres technologies qu'il faudrait aujourd'hui investir dans ce domaine-là, notamment si on veut pouvoir exporter, notamment si on veut pouvoir être présent dans un monde qui va être dominé par les énergies renouvelables, l'éolien, le solaire, etc.
Enfin, ceci dit, mais ce n'est pas la promesse actuelle, Guillaume. Ce que le gouvernement dit aujourd'hui, enfin, il nous promet en tout cas des réacteurs qui sont moins chers, des technologies qui sont plus rapides à construire, plus facilement déployées. Bonne Grandjean.
Non, on revient au sujet de la crédibilité. Le gouvernement, Flamanville, il faut que ça marche. Il faut qu'on démontre qu'on est capable. Donc c'est un travail laborieux, quotidien, appliqué, concret. Moi, je ne crois pas, contrairement à Guillaume Duval, au renouvelable, parce que c'est de l'intermittence, parce que la Chine s'est positionnée sur tous ces secteurs et est une économie prédatrice qui ne nous laissera pas de place, parce que l'Allemagne a démontré que ça ne marchait pas, d'ailleurs.
Et les États-Unis non plus, d'ailleurs.
Et c'est intermittent. Donc, donc le nucléaire est une filière d'excellence française. Il faut y revenir. Et là, l'État a un rôle à jouer. C'est du régalien. Et il y a à faire la démonstration qu'on a un État efficace, parce que c'est le mot-clé. l'efficacité de l'action publique. Sommes-nous capables d'être efficaces, de débureaucratiser nos process, faire en sorte... C'est le même problème que pour l'hôpital. C'est le même problème que dans tous les grands secteurs. L'État doit démontrer qu'il peut être efficace. C'est pas
voilà,
un problème
l'efficacité de la dépense publique.
C'est un
publique.
Problème d'efficacité. On le voit très bien dans le secteur hospitalier.
On est pour ou contre le nucléaire. Toujours est-il que ce type de sommet organisé qui plus est par l'Agence internationale de l'énergie atomique montre qu'il y a un retour en grâce du nucléaire qui n'était pas gagné il y a encore quelques années, il y a encore 4-5 ans finalement.
Oui, il y a aussi un effet clair. De communication, il y a un côté séduisant dans le fait que ça émet beaucoup moins de CO2, car 70 fois moins je crois.
C'est l'énergie charbon, la plus décarbonée de toutes.
La plus décarbonée de toutes, bon, c'est l'un des arguments qui est avancé.
On émet de la vapeur d'eau, c'est parfait.
Voilà, mais après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'externalités négatives.
C'est pas gaz à effet de serre la vapeur d'eau.
Il y a beaucoup d'externalités négatives qui ne sont pas toujours internalisées par les entreprises. Il y a la question des déchets. C'est un sujet complexe. Maintenant, au sein même de l'industrie du nucléaire, je crois qu'il y a d'énormes innovations qui ont été intégrées et qui permettent d'avoir
Oui, c'est en cours, avec quand même une vraie dynamique.
Demain, en fait.
Je vous rappelle que lors de la dernière COP28, donc à Dubaï, on en avait beaucoup parlé, plus de 20 pays se sont engagés à tripler les capacités financières nucléaires dans le monde d'ici à 2050, dont les États-Unis, les Émirats arabes unis, la France aussi. Donc là, l'objectif de ce sommet, c'est de trouver de l'argent.
Guillaume, oui, vous disiez.
Non, à Dubaï, c'est tripler les capacités renouvelables. Hein. C'est pas les capacités nucléaires.
Non, les Émirats arabes unis se sont aussi engagés à trouver des financements sur le nucléaire.
Le problème, c'est que ça peut jamais être une solution pour le monde. Je sais que les Français ont failli vendre des centrales nucléaires à Kadhafi en Libye, ce qui aurait été une catastrophe internationale. On va pas installer des centrales nucléaires dans le sud pour régler le problème du changement climatique. Et c'est là-bas que ça se joue. C'est en Afrique que ça va se jouer. Donc, on n'installera pas des centrales nucléaires dans toutes ces zones-là. Et si on n'est pas capable, nous, de produire des équipements pour les énergies renouvelables, on ne sera pas présent sur tout ce qui se passe dans le Sud, dans ce domaine-là. C'est tout.
Samuel.
Bon, mais très rapidement, c'est finalement à l'image de la France depuis quelques années. On est sur la politique du en même temps. Donc, c'est la question de l'énergie nucléaire.
En même temps, le futur mix énergétique, c'est une alliance de nucléaire et d'énergie renouvelable.
Donc, c'est du en même temps. Par le président. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. On est sur une solution hybride qui permet de préserver les intérêts de chacun, qui permet aussi, autant que possible, et j'ai bien compris les dissonances sur le plateau en la matière, de préserver les engagements et les intérêts de la France et que le gouvernement a porté pendant de nombreuses années, donc à travers des COP successives, à travers ce qui a été voulu comme une politique de transition énergétique et environnementale ambitieuse. Donc, en fait, on est un peu prisonnier de ce choix et de ce cap stratégique. Encore une fois, je ne dis pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est un constat. Et donc, ça ne peut amener qu'à ce qui a été fait cet après-midi, aujourd'hui, à savoir plaider pour une solution hybride. Bon, après, il faut se positionner encore une fois sur du moyen et du long terme. La question ne se réglera pas en 5 minutes, ni en 1 an, ni en 2 ans.
Non, mais
Bruno Grandjean,
c'est du long terme. Et là, on peut regretter, c'est que le gouvernement a débuté, les premiers gouvernements sous la présidence Macron, c'était l'arrêt de tranches nucléaires. C'était le retour à 50%. Donc, l'industrie, c'est le temps long. Et le nucléaire, encore plus. Donc, cette navigation à la godille, elle n'est pas compatible avec les intérêts du pays. Changer d'avis parce que c'est l'ère du temps. C'était Fukushima, donc fallait tout arrêter.
Ouais.
Et puis maintenant, c'est le gaz russe qui n'est plus présent, alors faut tout démarrer. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, il y a une incompatibilité entre les renouvelables intermittents et le nucléaire, parce que le nucléaire ne peut pas fonctionner en stop and go permanent. Les cycles thermiques font que le nucléaire, il doit être stable. Donc il y a une incohérence, ça manque d'ingénieurs d'ailleurs un petit peu dans ce contexte-là.
Et puis avec une guerre géopolitique qui se joue, parce que l'avenir du nucléaire, c'est principalement les SMR. Et je vous rappelle que la moitié de ces SMR devraient se situer en Asie, majoritairement en Chine, 17% en Europe et 16% en Amérique du Nord.
Et vous pensez que c'est nous qui allons les vendre aux Chinois, là ?
J'espère que ça se passe dans ce sens-là plutôt que
l'inverse. On va essayer de vendre de nouvelles versions de l'EPR. Voilà ce qui va se passer pour le coup. Voilà, on en est là aujourd'hui. Mais vous ne croyez pas à ceux qui disent le mix énergétique, c'est une alliance, alors dominante pour la France en tout cas, de nucléaire ?
Et je pense qu'il y a un problème à mixer du renouvelable avec le nucléaire tel qu'il est conçu. Vous n'arrêtez pas les chaudières, les turbines. C'est du gaz, généralement, qui vient en complément pour l'intermittence. C'est du gaz, parce que le gaz, vous tournez un bouton, il démarre ou il s'arrête. Ouais. Ce n'est pas le cas du nucléaire, donc il y a une incohérence. Enfin, je pense que ce sont des faits qui sont connus des ingénieurs, de ceux qui pilotent ce genre d'installation. Et redonnons le pouvoir à ses ingénieurs et arrêtons à ce que la politique, le politique se sent capable de tout, depuis le ressemblage des chaussures jusqu'à la politique, le pilotage des centrales nucléaires.
Je crois bien sûr que les X-Men soient meilleurs que les Énarques, mais bon, c'est un autre débat.
Il y a d'autres ingénieurs praticiens qui peuvent peut-être répondre.
Voilà, les ingénieurs de terrain, les vrais.
Bien, il nous reste 4 minutes. On n'aura pas le temps de parler d'Intel. Voilà, c'était l'info que donnait Thomas Asportas ce matin. Intel qui met sur pause son projet de centre de R&D en France. C'était du côté de Saclay, ça devait se faire. Mais bon, voilà, le problème, c'est que la priorité du moment, c'est de construire de plus en plus de puces. Construire pour être moins dépendant de la Chine et donc...
Récupérer un peu de souveraineté.
La R&D, profit, hein. La R&D attendra. Voilà, on va construire des usines. Vu ce qu'a annoncé Joe Biden hier, qui met 20 milliards.
C'est ce que va faire le gouvernement pour la France. Donc, il va réduire la R&D, il va réduire l'éducation, il va réduire la transition énergétique pour économiser de l'argent et on va perdre le futur.
Tant pis pour la France. C'est pas faux. On l'a vu avec ce qui a été fait pour les retraités, qui ont été favorisés dans cette période difficile. C'est quand même un mauvais signal donné sur le long terme.
C'est un mauvais signal, mais c'est une catastrophe, en fait, parce qu'on est en train de perdre aussi une légitimité sur les semi-conducteurs et qui constitue le premier combat géopolitique du moment, quand même. Faut-il le rappeler avec l'intelligence artificielle ? Là, on dit on va investir des milliards et des milliards sur les, sur la tech, sur les factories, mais là où vont être les factories, ça va être des pôles de domination sur l'IA. Donc on perd aussi le train de l'IA quelque part.
Ah non, sur l'IA, enfin on a quand même un acteur français, notamment européen, avec Mistral qui émerge quand même. Allez,
tout à fait, mais il faut quand même accélérer.
Tant pis pour la France. Allez, 3 minutes, c'est l'heure de l'extra time, comme tous les soirs, vos humeurs du soir, coup de gueule en 30 secondes. Bah Samuel, tiens, on va commencer avec vous, 30 secondes, on vous écoute Samuel, c'est à vous.
Ouais, un constat et un coup de gueule sur infoprenariat et storytelling. Est-ce qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin ? Il se trouve qu'il y a quelques jours, je regardais une grande matinale française avec un entrepreneur de la tech qui nous expliquait tout fier qu'il n'avait jamais levé de fonds, qu'il ne savait pas ce qu'était un fonds d'investissement et qui sur un autre média web par la suite nous expliquait que il n'était pas nécessaire de faire des interviews à outrance. J'ai été fasciné par cette histoire, j'ai fait quelques recherches et je me suis aperçu qu'en fait il y a 4 ans il avait levé 17 millions d'euros et qu'il avait un fonds de venture capital derrière lui. Donc en fait on atteint totalement les limites. Moi ce qui m'inquiète c'est surtout les codes qu'on va laisser à la jeunesse en matière d'entrepreneuriat et la place de l'ego démesuré au cœur des entreprises finalement. Donc on gagnerait à avoir des gens un peu plus comme Bruno finalement.
Ah, et bien voilà, la transition est toute faite.
Pas trop non plus.
Bruno Grandjean, c'est à vous. Coup de cœur ou coup de gueule ?
Pas vraiment, c'est plutôt un coup de cœur. Je sais pas si l'info a été relayée sur BFM, mais ASML est le leader européen de la tech. On en parle très peu, mais sa capitalisation est supérieure à celle de Total, hein, près de 300 milliards d'euros. Et c'est le fabricant des machines qui sont derrière les puces. Et ça, c'est un message fort, c'est-à-dire que l'Europe a perdu des positions, mais les puces ne sont pas faites en Europe, mais elles ne peuvent pas être faites sans des machines européennes. Oui. Et ça, c'est un message très fort. Et le PDG d'ASML, qui est un Français, a menacé de quitter les Pays-Bas, venir en France, parce qu'il a besoin d'experts étrangers. C'est un deuxième message très intéressant.
Ah bah, très positif.
Des frontières, c'est aussi un élément de compétitivité.
Et ben voilà, coup de cœur pour ASML. Guillaume Duval, c'est à vous.
Ouais, moi, je vais un petit coup de cœur, enfin, pas coup de gueule plutôt. Ça concerne la communication du président de la République sur la boxe. Je trouve que choisir d'imiter Poutine dans le moment présent n'est pas forcément le meilleur signal à envoyer ni au pays ni au reste du monde.
Avec une belle photo et des biceps avantageux, hein, c'est ça, cette photo qui a circulé aujourd'hui sur les réseaux.
Oui, le message est passé.
Jamais, on ne jamais, voilà.
Voilà. Pascal Delima, c'est à vous, vous terminez le bal.
Ouais, un coup de gueule, je dirais, sur la vision des métiers de demain, la vision de l'IA, de ce que peut être la France de demain, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine agricole. C'est vrai qu'on manque beaucoup, trop de stop and go, manque beaucoup de vision, parce que ça conditionne vraiment la motivation des jeunes. Et puis si on veut faire un peu de protectionnisme intelligent, il nous faudra aussi des règles pour qu'on puisse ne pas être en concurrence à tout va sur tous les domaines.
Et ben voilà.
Ça c'est dit.
Voilà pour vos coups de cœur, vos coups de gueule. Merci messieurs d'être venus ce soir sur BFM Business, 19h54. Samuel Botton, Pascal Delima, Guillaume Duval et Bruno Grandjean. Merci messieurs, à très vite avec plaisir. 19h55.
C'est fini dans un instant. Tech & Co arrive à 20h avec François Sorel. Puis on vous retrouve ce soir, Audrey, si je ne m'abuse.
Oui, absolument. Alors, Impact by Tcherkov ce soir à 22h avec un entrepreneur, justement, qui a fait fortune en France, qui est maintenant philanthrope et auteur. Il vient de sortir un livre. Il s'appelle Alexandre Mars. On parle de ses réussites, mais aussi de ses échecs.
Ça sera 22h ce soir sur BFM Business. Tech & Co, donc, avec François Sorel dans un instant. On revient demain, bien sûr, 18h pour de nouvelles aventures.
Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.